Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone, une émission adaptée au protocole sanitaire qui se resserre aujourd'hui avec notre équipe à nouveau touchée par le Covid et des restrictions de production plus fortes. Mais on vous accompagne et même si on chamboule un peu tout, vous allez entendre des moments de radio qui vont vous informer et vous distraire. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Aujourd'hui, nous irons dans le quartier de Montparnasse, à Paris, pour parler in situ du nouveau livre de Laurent Godet. Un récit qui convoque le passé et les grandes figures historiques de Paris. Reportage dans Paris, donc, la capitale qui engloutit tout et qui incite à fuir loin pour vivre sa vraie vie à l'image de Rimbaud. Nous irons dans la campagne belge, à distance, pour un roman d'apprentissage. Un retour à la terre pour une jeune adolescente qui souffre d'électro-hypersensibilité. Une maladie parfois moquée qui est pourtant très handicapante. Le prix Nobel de la paix, le Congolais Denis Mukwege, sera dans notre séquence Livre de poche et vous entendrez dans un instant Maryse Wolinski parler de la liberté de dessiner et de son mari défunt, un extrait de la version télé de la librairie francophone pour marquer à notre tour, en solidarité, les 50 ans de Charlie Hebdo. Voilà pour le sommaire. Vous retrouverez bien sûr nos libraires tout au long de cette émission, des libraires en liaison depuis leur librairie ou dans nos studios francophones. Déborah Damblon est en Belgique, libraire à Bruxelles, dans la librairie La Licorne. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien Déborah ?
Mais oui, tout va bien Emmanuel.
Parfait. L'élégante Dominique Bressou est en Suisse, vous la connaissez si vous regardez la version télé de l'émission. Toujours chic, elle est libraire à Boudry dans la librairie Une Petite Prose. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Non, c'est vrai, non, toujours chic.
Oh, ça me fait très plaisir que vous disiez ça.
C'est cadeau. Josiane Letourneau aussi participe à la version télé. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie du Square à Montréal. Et on va commencer cette émission par une petite anecdote de libraire avec vous au Canada.
Ben oui, une première. En fait, je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée qu'une seule fois dans toute ma carrière. J'ai un client régulier qui vient récupérer une commande spéciale. Et pendant qu'on fait la transaction, en fait, il m'explique qu'il a commandé ce livre-là parce qu'il l'a découvert durant un séjour dans un hôtel. Et l'hôtel avait offert ce livre-là comme cadeau de bienvenue. Alors, on fait la transaction. Et puis là, il me dit, en me poussant délicatement le livre sur le comptoir, l'avez-vous lu? Et là, ben, je dis, ben non, je dois avouer que je ne l'ai pas lu. Alors, bien, je vous le prête.
Ouais.
J'ai tellement adoré que
c'est
je veux absolument
Bible.
Que vous lisiez.
C'était la Bible? Non, ils offrent la Bible parfois, à l'hôtel.
Non, c'était... bon, j'irai pas... Bon, ça va être délicat. J'allais dire que c'était mieux que ça, mais bon, ouais. Je pense que
attention.
Je vais me faire tomber sur la...
Oui,
oui voilà.
Donc, pardon, allez-y, continuez.
Ben, c'est ça, en fait, il me pousse délicatement les puis il me dit, l'avez-vous lu? Je lui dis, ben non, je dois avouer que non. Il dit, ben, je l'ai tellement adoré que je veux absolument que vous lisiez. Et puis, ben, on s'en reparle. C'est génial, non?
Et donc?
Ben, en fait, il m'a prêté le livre qu'il venait tout juste d'acheter.
Ah,
je
d'accord.
L'ai lu, je l'ai adoré, puis on a eu un super bel échange avec ça.
D'accord, j'avais pas compris. Je dis, mais que... D'accord. Donc, c'était pour vous, en fait?
Ben, ouais. Voilà, avec le recul, je pense que c'était peut-être tout organisé pour qu'il puisse me le prêter.
Parfait, merci beaucoup Josiane. Pour la France, on retrouve à nouveau Anne-Rosine Vosa, libraire en Martinique, dans la librairie Le Papillon Bleu, gloire aux Antilles. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien pour vous?
Oui, tout va bien.
Bon, parfait, merci d'être avec nous toutes les quatre. Vous interviendrez bien sûr tout au long de l'émission. Charlie Hebdo a 50 ans, vous en parlez la semaine dernière avec la Suissesse Hélène Becklin. Parmi les créateur du journal, Georges Wolinski était là dès le premier numéro en tant que rédacteur en chef. Voici un entretien avec son épouse Maryse Wolinski qui était dans la librairie francophone version télé. Vous avez pu peut-être la voir dans la première émission de la saison qui a été diffusée la semaine dernière. Voici un extrait de cet entretien autour du livre Le sexe à la une, paru chez Gallimard. Dans ce livre, vous dites « Là où la sexualité est la plus taboue, règne la violence et l'instabilité politique. La frustration sexuelle génère des effets délétères sur la société. »
Oui, c'est ce qu'on peut constater
dans les pays du Moyen-Orient, par exemple, où il y a énormément de violences. Et puis, interdiction de l'avortement, interdiction de la sexualité, enfin, interdiction, contrainte, quoi. Aujourd'hui, on met des contraintes à la
sexualité. Et tout ça est lié, vous pensez ? La violence, les
armes ? Pour moi, oui.
C'est quoi le problème avec le sexe dessiné, d'après vous ? D'où ça vient ? Ça vient de culture ? Ça vient de rejet ?
Oui, je pense que c'est... Non, rejet à cause d'une question de culture.
C'est ça, oui.
Voilà, c'est ça. En fait, moi, ce que je pense, c'est que vous savez, les premiers harakiri, ceux d'ailleurs qui étaient interdits dans ma propre famille, mais on ne pourrait plus voir ce qu'ils faisaient sur harakiri il y a 40 ans, 50 ans, je pense. On ne pourrait plus les publier aujourd'hui. Ce ne serait pas possible. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'il y a une censure réelle, mais en fait, on s'auto-censure.
C'est ça.
Il n'y a qu'à voir Charlie Hebdo aujourd'hui. Ce n'est plus du tout le Charlie Hebdo que nous avons connu. C'est autre chose.
Vous le regrettez, ce Charlie Hebdo d'aujourd'hui ? Vous pensez qu'ils n'ont pas réussi à passer, à surmonter finalement l'épreuve ?
Ce n'est pas le problème qu'ils n'ont pas réussi. C'est que c'est une autre génération de dessinateurs.
Ce ne sont pas les mêmes,
Ce ne sont pas les mêmes. C'est pas
personne
ne les
remplacera, ceux qui sont partis.
Non. Et c'était des grands.
Oui, immenses.
Faut dire.
Bon, on pense à eux. Je vais le dire tout de suite parce que je suis très ému parce que voilà, votre époux était un ami de l'émission, Georges Wolinski et puis Cabu aussi. Et je voulais leur dédier cette émission-là. Voilà. Et avec vous, et on est ravis de vous.
Faisons-le alors.
Faisons-le
voilà,
tout de suite.
Voilà, sur l'écran.
Tahar Ben Jelloun, il y a des pays où l'on ne peut pas dessiner la sexualité, on le disait, où la censure est telle que ça empêche le simple fait de proposer un dessin à un journal. Vous l'avez entendu, ça, au Maroc?
Oui, bien sûr. Pas seulement au Maroc, mais un peu partout, au Moyen-Orient, ces pays où la religion pèse sur les consciences. Mais en même temps, nous vivons une période pornographique. C'est la période qui est pornographique, c'est-à-dire elle est dégueulasse. C'est dans le sens où...
Même dans le verbe, d'ailleurs.
Oui, on fait des choses en cachette dégueulasses, absolument odieuses, et puis on tue, on assassine des artistes parce qu'ils ont osé faire un dessin ou qu'ils ont fait de l'humour ou du blasphème. Et ça, c'est quelque chose d'insupportable parce que nous vivons une époque où les libertés sont en régression, où l'imagination est bridée, où il y a une certaine morale qui s'installe maintenant venant de gens qui n'ont aucune éthique ni aucune morale. C'est une époque qui n'est pas très très belle.
Bon, quand on parle de sexualité, il n'y a pas que des dessins comme ça, un peu osés. On a le dessin de côté, par exemple, qui est canadien, qui est très drôle, avec cet homme qui dit « Je ne sais plus comment parler aux femmes ». Et la femme répond « La meilleure façon de parler aux femmes, c'est de les écouter ».
C'est une bonne chose.
C'est une bonne chose.
Vous savez, j'en profite pour dire que, vous voyez, à partir de ce dessin, le dessin de presse, contrairement à la bande dessinée qui raconte une histoire, le dessin de presse raconte une idée.
Oui.
Et ça doit être un uppercute.
Oui.
C'est un édito, en fait, un dessin de presse. Et moi, j'aime beaucoup le dessin de presse.
L'uppercute de Kroll aussi, le dessinateur belge, qui a imaginé un défilé dans les rues de Paris autour du mariage pour tous, avec donc les représentants des religions et cette pancarte, non au mariage gay, et au gay tout simplement, tant qu'à faire. Et puis derrière, un monsieur qui dit s'il pouvait s'entendre aussi facilement à tous les points de vue. Bon, il y en a un qui est pas mal aussi de Georges, où il y a une femme encadrée de deux hommes, donc on suppose qu'ils ont passé la nuit ensemble, et elle dit « Être mal baisé par un mec, ça arrive, mais être mal baisé par deux mecs, il faut que ça tombe sur moi.
»
Bon, on pense fort à lui. Merci beaucoup, Maryse Wolinski.
Maryse Wolinski, dans la version télé de la librairie francophone, version télé diffusée chaque mois sur RTS2, RTBF La 3, ici RTV et sur TV5 Monde. Les coups de cœur et les coups de gueule des libraires, première partie tout de suite avec un coup de gueule en Suisse, Dominique Bressoux.
Oui, moi j'ai un coup de gueule sur les frais postaux. Jusqu'ici, quand un livre édité en France n'était pas distribué en Suisse, on le commandait directement à l'éditeur et la directive de la Poste française concernant l'envoi de brochures et livres, accrochez-vous pour promouvoir la culture française, permettait de les obtenir, certes pas très rapidement, mais à un prix correct. Or, il semble que soit la Poste n'offre plus de service, soit les éditeurs ne veulent plus en profiter, et maintenant on reçoit des devis avec frais de port de 15 à 18 euros.
Ah quand même, oui.
Oui, quand même. Alors, inutile de dire qu'on ne peut pas ajouter une telle somme aux livres pour nos clients,
bah non,
et qu'une fois de plus, bah, Amazon sort gagnant. Alors moi, oui, ma prière, oui, c'est que la Poste française et les éditeurs continuent à soutenir la promotion de la culture française.
Et il faut aller surtout chez son libraire indépendant de proximité. Je
absolument
le rappelle, quitte à risquer des choses, mais n'achetez pas vos livres chez Amazon. N'achetez pas les livres là-bas. Achetez-les chez un libraire indépendant. Voilà.
Répétez-le encore.
C'est bon, ça va aller, je pense. Merci beaucoup Dominique. On part en Belgique avec un coup de cœur pour adoucir tout ça.
Voilà, un très joli coup de cœur pour un livre qui est beau mais comme un bouquet de fleurs. Non, c'est pas vrai. Il est même encore plus beau qu'un bouquet de fleurs parce que lui, il va pas faner. Il est aussi joli à lire qu'à regarder. Il s'intitule « Les gestes du jardin ». C'est un délicat poème en prose qui raconte le jardin, bien sûr, mais aussi la transmission et les petits plaisirs simples et authentiques. Alors découvrez-le, lisez-le, offrez-le. Il va faire des heureux et adoucir les humeurs.
Les gestes du jardin aux éditions Esperluette pour adoucir les humeurs. Merci beaucoup, Déborah. Musique de Papa Wemba pour célébrer la saison des prix Nobel. Vous l'avez entendu cette semaine. En 2018, le Congolais Denis Mukwege obtenait le prix Nobel de la paix. Il avait publié un livre terrifiant sur les femmes violées et mutilées au Kivu. Nous avions reçu le médecin gynécologue Mukwege pour un entretien qui vous avait fait beaucoup réagir. En voici un extrait pour rappel et pour tous ceux qui n'ont pas encore lu ce livre. Il est sorti cette semaine en poche chez HarperCollins. On va écouter Jean Van Damme. Vous connaissez bien Denis Mukwege et Jean Ziegler aussi. Immense personnalité suisse qui se bat partout dans le monde contre la faim dans le monde et contre toutes les injustices. Il nous racontait ici ce qui se passe au Kivu. Écoutez.
Chaque fois que vous allumez votre portable ou votre tablette, un enfant se fait violer et une femme se fait mutiler au Kivu. C'est le bon résumé de toute l'affaire. C'est terrifiant.
Le coltan se trouve dans l'est du Congo, par exemple, avec des puits très étroits. Et seuls des enfants au corps mince, peuvent aller dans ces puits. Donc c'est des enfants qui pourront essayer que leur propre famille meure de faim dans les villages alentours, acceptent cette chose totalement horrible, de risquer leur vie dans ces puits qui s'effondrent et beaucoup d'enfants...
Et des enfants meurent tous les jours, là encore.
Pour sortir ce coltan, vous n'auriez pas ces tablettes dans la main si des enfants n'étaient pas morts ou risquaient leur vie, etc. Alors que nous pourrions, par l'insurrection de la conscience, arrêter ce massacre, donner la vie à ces enfants.
Le coltan, voilà, la richesse du Kivu. Docteur Cadière, docteur Mukwege, la richesse du Kivu qui condamne paradoxalement la population des villages de la région. Tout le monde sait, tout le monde est au courant, le gouvernement rwandais, le gouvernement congolais, les grandes marques d'informatique et de smartphones, tous les chefs occidentaux, tout le monde, on ne fait rien.
C'est la grande interrogation.
Docteur Cadière, comment vous le vivez, vous le médecin belge, quand vous êtes là-bas, quand vous voyez ça et quand vous revenez ici? Et que vous vous apercevez effectivement que tout le monde sait, mais qu'on ne fait rien.
Alors effectivement, quand vous êtes au bloc opératoire, vous touchez l'horreur absolue.
Oui.
Et donc, en revenant, on se retrouve dans une civilisation, avec des règles, avec des lois, pour protéger les plus faibles, et un appareil d'État pour faire respecter cette loi. Donc, on se dit qu'on revient à la civilisation. Et pourtant, les gens qui sont au pouvoir, ils acceptent que la chaîne de construction des GSM soit en fait entachée de telles horreurs. Horreurs qu'on leur raconte.
Oui.
Comme Denis a dit, on ne peut pas dire « je ne savais pas ». Et je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre comment dans notre civilisation, on accepte de se comporter de cette manière. Alors c'est bien que l'injustice, on la supporte très bien quand on n'en est pas la victime.
Oui, c'est ça. Alors on en a tous, hein, de ces téléphones. Et le docteur Mukwege le dit, le prix Nobel de la paix le dit, il ne faut pas culpabiliser non plus. Mais maintenant il faut savoir, il faut comprendre, il faut entendre. Peut-être qu'à un moment, à force d'en parler, à force de réagir, à force d'entendre des témoignages comme on va entendre tout de suite, on va peut-être réaliser qu'il faut faire quelque chose.
Alors ils m'ont jeté par terre, ils m'ont retenu les mains. Mon mari a essayé de me défendre, mais ils l'ont tué. J'étais enceinte de 6 mois. Ils ont pris une machette pour sortir le bébé de mon ventre. À ce moment-là, je me suis évanouie. Mais ma mère et d'autres personnes du village ont assisté à la scène. Elles m'ont raconté qu'ensuite, 8 hommes m'ont violée et quand ils ont fini, ils ont introduit un bâton dans mon vagin. Moi, je me souviens seulement de m'être réveillée à l'hôpital. Depuis ce temps, on m'a opérée plusieurs fois, mais je ne suis toujours pas guérie.
Voilà le témoignage d'une femme du Kivu, victime de ce massacre, parce que c'est un massacre. Et les seuls qui agissent, en fin de compte, c'est vous, docteur Mukwege, docteur Kadière. Avec la chirurgie réparatrice, vous sauvez des centaines, des milliers de femmes. Et même si vous êtes des modèles absolus, des hommes remarquables, qui méritent un prix Nobel, ce n'est pas assez. Car on le voit aussi, là-bas, il y a de jeunes garçons qui sont massacrés, où il y a cette scène où un gamin, on lui fait découper et manger les seins de sa mère, et on oblige aussi d'autres gamins à violer leur sœur, à assister au massacre de leur famille. Ils en deviennent fous. Il y a aussi ces maris que l'on tue, ces hommes qui perdent la raison par impuissance. Docteur Mukwege.
C'est l'horreur absolue, c'est que je crois qu'aujourd'hui, je refuse d'ailleurs d'écouter que les malades me racontent ce qu'ils ont vécu, puisque je trouve que ça m'empêche parfois de pouvoir faire même mon travail correctement. Il y a des choses qui se passent dans le Kivu aujourd'hui qui ne peuvent pas s'expliquer, que même les animaux ne font pas entrer. Donc, malheureusement, ça se passe entre les hommes. Mais il est très, très difficile d'écouter ces histoires.
Et vous avez écrit un discours, lorsqu'on vous a remis le prix Nobel de la paix, magistral, docteur, absolument magnifique. Voici un extrait.
Vos majestés, distingués membres du comité Nobel, mesdames et messieurs, amis de la paix, le défi est clair et il est à notre portée. Pour les Sahara, pour les femmes, les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez, trop c'est trop, la paix maintenant. Je vous remercie.
Un extrait de votre discours, Denis Mukwege, lorsque l'on vous a remis le prix Nobel de la paix. Vous avez foi en l'avenir ou c'est plus difficile aujourd'hui?
J'ai foi. Oui. Sinon, j'aurais abandonné. J'ai foi dans ces femmes que je soigne. Parce que je ne suis jamais arrivé à comprendre les femmes qui subissent ces horaires qui, comme vient de le témoigner une d'elles, elles sont incontinentes et parfois incontinentes pour toute la vie. Et donc, elles sont exclues par le fait qu'elles perdent les urines, les matières fécales sans contrôle. Mais que ces femmes qui continuent à aimer, qui continuent à se battre pour leurs enfants, continuent à se battre pour leur communauté, je trouve que ça, c'est un signe d'amour extrême pour moi. Ça me donne foi à l'avenir et je pense que le monde, on pourra le reconstruire, un monde meilleur, si on donne tout simplement l'égalité des chances entre hommes et femmes.
Docteur Kadière, vous avez la foi, vous ?
Je suis amoureux de ces patientes, moi. Toutes. Je suis amoureux parce qu'elles sont incroyables. Quand elles vous sourient le lendemain matin, après l'intervention, mais elles vous rendent meilleures. Donc oui, j'ai foi dans ces gens-là.
Alors malgré tout, docteur Mukwege, vous êtes menacé de mort, protégé en permanence, vous avez vécu une tentative d'assassinat dans votre maison, vous le racontez dans le livre, on a ligoté vos filles, tué l'un de vos gardes, et au moment où on allait vous tirer dessus, vous vous êtes évanoui de peur. Et là, je vous avoue que lire ça, ça m'a beaucoup étonné, docteur Mukwege, parce qu'avec tout ce que vous avez vu, avec tout ce que vous avez vécu, vous êtes évanoui de peur, comme chacun d'entre nous l'aurait fait d'ailleurs, mais c'est ça qui vous a sauvé la vie.
Mais exactement, je pense que si on n'a plus peur, c'est qu'on n'est plus humain. Mmh. C'est tout à fait normal qu'on ait peur, et je crois que là, je suis père de famille, j'ai une épouse que j'adore, et donc je voyais tous mes projets se terminer ces jours-là, puisque bon, ben, j'avais 5 personnes armées avec leurs armes sur ma tempe, et c'est vrai que ni n'était le courage de Joseph, encore un acte d'amour qui est plongé pour me sauver. Malheureusement, c'est lui qui a pris la balle, il est mort sur le champ. Et ça a été très, très dur pour moi et pour mes deux filles qui ont vécu ça en direct.
Voilà, ce livre, Réparer les femmes, un combat contre la barbarie qu'il faut lire absolument. Vous serez toujours le bienvenu dans la librairie francophone, Dr Mukwege et Dr Kadière, quand vous voulez.
Merci.
Dès que vous êtes là, vous venez, il n'y a pas de souci.
Merci.
Merci beaucoup.
Je termine avec une citation de ce livre. Il faut mettre un terme à la tragédie du Kivu, non seulement pour le peuple congolais, mais pour le monde entier. Et le livre de Denis Mukwege et Guy Bernard Kadière, Réparer les femmes, vient tout juste de sortir en poche chez HarperCollins. On part à présent dans le quartier de Montparnasse avec Laurent Godet pour un entretien-reportage autour de son dernier récit. Ce sera juste après l'artiste Cheval Rex. Merci à vous d'écouter la librairie francophone.
Fin de l'état de grâce, fin des réflexes les plus tenaces, fin d'une famille qui marche et crève, j'étais le petit prince. Le petit roi, c'est vrai, mais maintenant, oublions ça. Plus d'ordre de préférence, fin du chantier, fin de l'enfance. Nul départ sans conséquence, fin des mythologies, fin d'une posture, fin d'un pays. Bien souvent, la nuit, j'en ris. C'était beau tout au pied du Vercors, l'infini vertical de nos propres corps n'indiquait pas plus de direction qu'un corps d'armée en action. Fin de nos monarchies, fin des familles plus d'alibi, fin des hasards qu'on embellit. Les plus tenaces, fin d'une famille qui marche et crève, trêve de révérence, fin de l'hommage, quelle délivrance, fin du dégoût qui couvre tout. Fin de l'état de grâce, fin des réflexes les plus tenaces. Fin d'une famille qui marche et crève, j'étais le petit prince, le petit roi, c'est vrai, mais maintenant oublions ça.
C'était Cheval Rex dans la librairie francophone avec Monarchie et on part dans le quartier de Montparnasse à Paris pour un entretien exceptionnel avec Laurent Godet à l'occasion de la sortie de son nouveau livre qui vient de paraître chez Actes Sud. Et bonjour Laurent Godet.
Bonjour.
Voilà, nous sommes en plein Paris. Vous publiez un livre inattendu, un hommage à Paris, une critique aussi de cette ville qui a vu passer des personnages historiques, qui a résisté, qui a vu naître et vivre des millions de citoyens anonymes, des voyageurs de passage aussi, des Français qui sont montés à la capitale pour réussir. Et vous, qui avez grandi, puis vieilli en partie dans cette ville, vous le racontez et vous avez choisi des lieux pour illustrer cet ouvrage.
Mais oui, c'est vrai que j'ai constaté que Paris était absente de mes romans jusqu'à présent et c'est finalement le lieu qui m'a vu naître et dans lequel je vis depuis ma naissance, donc j'avais envie d'en parler à ma manière, ce qui n'est pas facile parce que a priori c'est vrai que c'était pas un sujet de roman pour moi, Paris, donc j'ai mis du temps à essayer de trouver la voie qui me permettrait d'en parler.
Alors, on est dans un célèbre café. Juste en face de nous, il y a la Coupole, qui est un restaurant très connu, historique aussi. À côté, la Rotonde aussi, historique pour d'autres raisons, avec le président Macron qui a célébré sa victoire. Et puis, ici, le Select. Qu'est-ce qui s'est passé au Select, Laurent Godet?
Moi, c'est un endroit que je fréquente depuis très longtemps. Enfin, je fréquente, voilà, je viens boire des cafés ici. Et puis, et quand j'étais jeune homme, c'était aussi un endroit d'écriture. J'ai beaucoup et longtemps écrit dans les cafés. J'aimais bien ça, et notamment ici. Et mon tout premier texte de théâtre, qui s'appelle Onisos le Furieux, a été écrit sur les banquettes du Select, là, dans la petite table qui est juste devant l'escalier qui descend aux toilettes. Entre le bruit des conversations, les tables d'à côté qui parlent, qui rient, et la concentration de l'écriture, j'aimais bien cette alternance.
Nous sommes sur un boulevard très passant, vous l'entendez derrière, le boulevard du Montparnasse. Ce boulevard du Montparnasse qui, à partir de l'endroit où nous sommes, amène vers la gare Montparnasse et une fameuse esplanade. Et il y a cette esplanade dans votre livre. Vous rencontrez un personnage étrange qui vous pose une question, un fantôme ou une vieille connaissance sans doute, quand on connaît votre œuvre. Il vous dit « Qui es-tu, toi ?» Qui es-tu ? Personne ne vous a posé cette question.
Mais non, parce que c'est une question qui paraît un peu absurde, un peu artificielle. On se la pose quand même assez rarement à soi-même, le matin, au petit déjeuner. C'est une question qui est trop grosse pour la vie quotidienne. Et en même temps, fondamentalement, c'est une question à laquelle il faut répondre, le temps de son existence. Au fond, qui est-ce qu'on aura été ? Et quand on se la pose sincèrement, elle est abyssale. C'est-à-dire, comment on y répond à cette question-là? Par un certain nombre de choses qu'on a faites, qu'on a pensées, par des attributs extérieurs, un métier, un âge, ce qui nous entoure. Et au fond, est-ce que tout cela suffit? Est-ce que y répondre, c'est pas aussi plonger dans son flux intérieur, la manière dont on pense, ce à quoi on pense? Et puis, il y a toute la question de l'héritage. Donc, au fond, elle est énorme, cette question-là. Mais elle est belle. Et le texte essaye de proposer un moment où le narrateur va pouvoir y réfléchir et y répondre. Parce qu'en fait, ces moments existent peu. Le rythme de la vie fait qu'on ne se la pose jamais.
Alors, il y a ces personnages, hein, je le disais, vous citez Rimbaud par exemple, qui a fréquenté ce genre de café-restaurant où nous sommes. Il a cru en Paris, Arthur Rimbaud, mais il en partira très vite, car dites-vous, sa vraie vie est ailleurs. Lui aussi, on a dû lui dire, mais qui es-tu toi, Arthur Rimbaud ?
Absolument, et c'était important qu'il soit là parce que c'est un exemple d'un personnage historique, célèbre, que Paris a refusé d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça s'est très mal passé là. Et moi, je l'ai appris en me documentant pour ce livre. La toute première fois que Rimbaud vient à Paris, il a fugué, il a quitté Charleville-Mézières en fuguant, il a 16 ans. Et quand il arrive à Paris, en fait, on est en pleine période très tourmentée, c'est bientôt la Commune de Paris, et il y a la guerre avec la Prusse. En fait, il se fait arrêter dans le bus parce qu'il n'a pas de ticket. C'est vraiment un truc trivial et tout bête. Et cette arrestation va aller loin, en fait, parce que comme la période est tendue, on l'emmène en prison directe et on appelle ses parents qui viennent le rechercher. Donc Paris dit non, il ne verra pas Paris cette première fois. Et c'était important que le livre ne célèbre pas uniquement Paris de manière béate. Paris a raté des rendez-vous. Paris a raté Rimbaud, Paris a raté d'autres grands moments parce qu'elle n'a tout simplement pas su que ces gens la traversaient, y vivaient.
C'est une ville injuste, Paris, Laurent Godet. Elle donne aussi vite qu'elle reprend. À un moment, on s'épuise. À un moment, on n'a qu'une envie, c'est de fuir ailleurs.
Oui, c'est une ville qui est fatigante, qui est éreintante, dans laquelle il y a beaucoup de monde. Je pense que c'est une ville qui n'a pas le temps de compter ceux qui l'habitent, qui n'a pas le temps de s'occuper de ceux qui l'habitent, qui n'a pas le temps d'être fier de tous ceux qui l'habitent. Donc effectivement, ça brasse énormément et il y a énormément d'ombre à Paris, au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire des existences qui ne seront jamais regardées de près.
Bon, on va quitter ce bar, le Select, Laurent Godet, on va aller dans la rue. Pendant ce temps, le temps de nous déplacer, on va entendre nos libraires à distance, les libraires suisses et français ont lu votre récit. On commence par la Suisse, ça vous va ?
Très bien.
Allons-y, la Suisse avec Dominique Bressoux.
Alors moi, j'ai adoré ce livre. Dès les premières pages, Laurent Godet, le lecteur vous suit aveuglément dans les rues de Paris et il voit tous ces fantômes qui en peuplent chaque recoin et qui font de cette ville une galaxie magique. À la première lecture, on suit vos pas, presque en courant parfois, juste pour le plaisir. Et pour doubler le plaisir, à la deuxième lecture, on absorbe toute la poésie de vos écrits. Alors moi, j'ai juste un seul reproche. Je me suis sentie vraiment frustrée de ne pas pouvoir aller à Paris en ce moment pour suivre vos pas quand j'ai fermé ce livre.
Ça me fait très plaisir, d'autant plus que effectivement, le Paris vit en ce moment, mais comme toutes les grandes villes, une situation assez étrange d'être coupé comme ça du monde. C'est une ville qui a 7 gares, Paris. Et ça dit bien aussi que c'est son ADN d'être dans cette pulsation permanente de recevoir des gens et en laisser partir. Donc là, en ce moment, c'est vrai que c'est très triste.
Allez, on part en France, en Martinique. Ça va vous plaire, Laurent Godet, avec notre libraire du Papillon Bleu à Fort-de-France, Anne-Rosine Vosa. C'est à vous. Que pensez-vous du livre de Laurent Godet ?
Comme d'habitude, Laurent Godet tient toutes ses promesses. J'ai adoré ce roman parce que le procédé par lequel l'auteur fait rentrer le lecteur dans l'histoire est incroyablement génial. Et ensuite, parce que convoquer tous ces personnages illustres pour raconter l'histoire de Paris au gré des déambulations du narrateur donne beaucoup d'intensité au récit. C'est vraiment un roman hyper puissant.
Voilà pour la vie de nos libraires. Laurent Godet, on arrive dans la rue de l'Ambre, toujours dans le 14e arrondissement de Paris. Paris, cette ville qui est allée jusqu'à ignorer le premier congrès des écrivains et artistes noirs en 1956 à la Sorbonne, vous en parlez aussi. Ils étaient tous là, Césaire, Senghor, Depestre, Glissant, Baldwin, Fanon, tous. Mais Paris, je cite, les a snobés comme une bourgeoise imbécile.
Ben oui, c'est un moment moi qui me procure beaucoup de nostalgie, d'imaginer que ce moment-là n'a pas eu l'éclat qu'il aurait dû avoir. Tout le monde aurait dû se presser pour aller écouter tous ces gens qui sont quand même d'immenses artistes, d'immenses écrivains. Alors c'est compensé par le fait que imaginer que tous ces hommes se sont parlé, ont échangé à Paris, ça devait être quand même c'est très beau. Et ça a eu lieu effectivement grâce à la librairie et à l'éditeur Présence Africaine qui avait organisé tout ça, et j'avais envie de rendre hommage à ce moment-là, oui.
Alors Paris, qui pourtant saura honorer Victor Hugo, suspendre même l'insurrection en 1871 pour respecter et s'associer au deuil de Hugo qui vient de perdre son fils. Vous racontez une scène incroyable où les insurgés s'arrêtent devant le passage du convoi.
Oui, Victor Hugo vient de perdre son fils à Bordeaux. Le corps est ramené en train et Hugo marche de la gare de Lyon jusqu'à Ménilmontant pour aller enterrer son fils au Père Lachaise. Et on est en plein début d'insurrection de la commune. Donc les rues sont, ça bouillonne de partout. Et en fait, au passage du corbillard, les gens s'arrêtent et quand ils apprennent que c'est Hugo qui enterre son fils, il y a un espèce de moment suspendu comme ça, de profond respect. Et ça crée une espèce de scène hallucinante où effectivement on est aux deux extrêmes, celle du silence, du recueillement et en face et à côté le bouillonnement révolutionnaire, c'est très beau. Avec Paris, là vraiment la rencontre a lieu. Hugo et Paris, c'est une belle histoire. Autant Paris a raté Rimbaud, autant avec Hugo, effectivement, c'est pleinement...
C'est autre chose.
Voilà.
Ouais. Bon voilà, on passe devant des terrasses de restaurants, hein. Beaucoup de bars sont fermés en ce moment. Bon, on va aller sur le boulevard Edgar Quinet. Avec des terrasses, là aussi, avec la jeunesse. On va parler de la jeunesse. Et puis, la rue Liancourt aussi, très personnelle. Avec vous, Laurent Godet, dans la librairie francophone, dans les rues de Paris. Paris-Montparnasse, aujourd'hui. Voilà le boulevard Edgar Quinet, avec la tour Montparnasse, qui est juste devant nous, vraiment à quelques mètres. Avec toute sa hauteur, illuminée de roses ce soir. Voilà, il y a des terrasses avec des jeunes. Alors, Laurent Godet, vous parlez de ce temps qui passe. Je sais que c'est difficile pour vous, c'est difficile pour tout le monde. Mais en même temps, vous dites à un moment sur ce boulevard Edgar Quinet, la jeunesse est là, aux terrasses des cafés, je la vois. Elle a envie de vivre plus vite, plus fort, de faire résonner l'instant avec fracas, et je ne suis plus tout à fait avec eux.
Ben oui, vous savez ce petit moment où vous avez l'impression que dans les rues tout le monde est jeune. Je crois que c'est le signe de quelque chose. Et moi je le ressens comme ça, mais en même temps c'est magnifique. Moi,
Ah, ça c'est la jeunesse qui s'excite.
Moi j'adore ça. Le café qui est à l'angle là, qu'on voit qui est tout illuminé, j'étais au collège il n'y a pas loin, et donc c'est le café où j'ai bu mes premiers cafés avec les amis. Donc quand je vois des jeunes gens qui font la même chose aujourd'hui, 30 ans plus tard, ça me plaît énormément.
Bon, vous évoquez aussi la rue Liancourt, qui n'est pas très loin d'ici, où votre papa meurt en voulant réparer un volet. C'est une histoire très émouvante. Et vous dites, comme il n'a pas peur du vertige, il n'a pas eu la prudence de la peur.
Ben oui, bon, c'est comme ça, ça fait partie de mon histoire d'avoir connu la disparition de quelqu'un de très proche, donc de mon père, d'une mort violente et accidentelle. Or, toute mort accidentelle est stupide, elle est bête. D'ailleurs, ça renforce énormément la colère qu'on éprouve au moment où elle a lieu. C'est qu'il y avait mille manières pour que ça n'ait pas lieu. C'est tellement stupide que ça ait lieu que c'en est rageant. Donc, c'est une souffrance supplémentaire et surtout, c'est une... comment dire, il n'y a pas de belle mort. Hein. Enfin, si, il y en a quelques-unes, mais celle-là a en plus comme caractéristique d'arriver en quelques secondes. C'est-à-dire, on avait quelqu'un et trois secondes plus tard, on l'a plus. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très singulier. Tous les gens qui ont perdu un être cher de cette manière-là, je pense, le sentent et le savent. C'est qu'il y a un deuil supplémentaire à essayer de faire de cette crainte de la brutalité. C'est que dans les semaines, dans les mois qui viennent, on a une espèce de peur que ça arrive à d'autres, que du coup, ce soit une sorte de chose contagieuse. On peut perdre quelqu'un en trois secondes. Moi, je l'ai expérimenté, je sais que c'est possible. Et donc, du coup, il faut du temps pour se remettre de cette inquiétude-là.
Vous aviez quel âge ?
C'était il y a 15 ans, donc j'étais déjà un homme.
Vous étiez déjà très jeune.
Bien sûr. On en revient à la question.
Revient à la jeunesse. En conclusion, vous citez l'écrivain suisse Ramu. La seule phrase qui arrive à vous consoler, c'est à cause que tout doit finir, que tout est si beau. Elle vous plaît à ce point-là, cette phrase ?
Oui, je l'aime beaucoup.
Un peu bancale ?
Oui, un peu bancale dans sa syntaxe, un peu étrange,
oui.
Mais que j'aime beaucoup et qui, effectivement, qui m'apporte un certain réconfort. Elle condense cette idée très simple que, finalement, la finitude est aussi une manière de réactiver la beauté de la vie. Mais ce boulevard Edgar Quinet, il a ça en lui, d'ailleurs, autour de nous. Là. C'est-à-dire qu'il y a des terrasses de café, un peu plus loin, il y a le cimetière du Montparnasse. Et j'aime bien cet endroit-là parce que ici se côtoie le monde des morts, qui est vraiment pas loin, et le monde de la jeunesse, des vivants. Il y a encore quelques marchands de couleurs, comme on disait à l'époque, parce que c'était le quartier des artistes. Il y a toute cette densité-là du contraste, en fait. Et la phrase de Ramu me console, effectivement. Je pense que c'est un des très nobles buts de l'écriture, c'est d'amener un petit peu de vérité et de consolation.
Merci beaucoup, Laurent Godet. Paris, mille vies est paru aux éditions Actes Sud. Merci, Laurent.
Merci, Emmanuel.
Dans un instant, retour en studio avec l'auteur belge Mathilde Allais pour un roman sur la jeunesse, justement, qui évoque aussi l'hypersensibilité aux ondes dans cette société ultra connectée. Ce sera après le nouveau titre d'Alain Souchon dans la librairie francophone.
J'avais du soleil. J'avais du soleil. Impression, soleil levant. Les heures tournant, colorant la cathédrale de Rouen. À Paris, il lèche les toits. Marrakech, El Koutoubia. Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Les bimbos toc, les filles belles, les black blocs et les prix Nobel. Comme le roi soleil Louis, il croit que tout le monde est à lui. Mais le pire, c'est l'empire qu'il a sur ma Laura. Il n'a de cesse qu'il caresse Laura, ma Laura. Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Moi j'attends dans le couloir. Moi j'attends son bon vouloir. Et lui soleil malhonnête, il rentre par la fenêtre de Laura adorable. Allongé sur son drap bleu. Jaloux du soleil. 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 Jaloux du soleil.
C'était le nouveau titre d'Alain Souchon avec Jaloux du soleil.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici à Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Après cette balade dans Paris, retour en studio avec notre invité belge depuis nos studios de la RTBF. Bonjour Mathilde Allais.
Bonjour Emmanuel Kérad.
La ville de Bruxelles où vous êtes en ce moment avec tous ces bars et restaurants fermés. Quelle est l'ambiance là en ce moment Mathilde ?
Alors les bars viennent de fermer, effectivement les restaurants restent ouverts quand même, donc on a un petit sentiment de reconfinement, mais il y a quand même un petit peu plus de vie qu'au moment du confinement dur.
Alors cette frénésie, cette urbanité, la famille de Juliette, votre personnage, va la fuir. Dans votre roman Sexy Summer, vous racontez cette nouvelle vie au vert, c'est une sorte de rêve imposé pour toute la famille.
Oui, alors pour les parents, ça a peut-être quelque chose de cette mise au vert, un petit peu fantasmée. Pour Juliette, qui est une adolescente de 14 ans et qui est le personnage principal du livre, c'est un déracinement qui est complètement subi pour des questions de santé. Mmh. Et elle n'était pas du tout demandeuse à quitter la ville pour ce petit village en pleine campagne.
Oui, parce qu'elle dit « Bruxelles n'était ni belle ni moche, c'était chez moi ». Et c'est ça en fait. Dans cette campagne, elle décrit une atmosphère inquiétante, comme si la menace planait. Il y a des soupçons avec des voisins un peu bizarres. Elle se sent pas très bien en fait là-bas.
C'est ça, ce qu'il y a, c'est qu'elle arrive, sa famille et elle arrivent comme ça en plein mois de juillet. Le livre se passe quasi entièrement pendant un été. Et en fait, quand elle débarque là, c'est complètement mort. Les volets sont fermés, il n'y a personne. Évidemment, elle va se rendre compte que si. Mais sa première impression, c'est ça, c'est il ne se passe absolument rien. Mmh. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas une âme qui vive. Et c'est surtout un immense sentiment de solitude qui la prend comme ça aux tripes à son arrivée.
Ouais, et tout est dans le titre, en fait, a priori, quand vous dites Sexy Summer. Alors, on va pas parler du titre en anglais, hein, dire que, bon, voilà, un titre honteusement en anglais, alors qu'il y aurait une formulation française beaucoup plus jolie, un été sensuel, par exemple, ou non, un été sexy, ça vous a pas plu, ça ?
Je crois qu'il vaut mieux laisser aux lecteurs et aux lectrices la surprise de découvrir ce à quoi le titre fait référence.
Oui, oui.
Il est en décalage avec le contenu du livre, parce que c'est vrai que c'est pas un été très très sexy en réalité dont il est question ici.
Mais il est question des premiers émois adolescents dans ce livre.
Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et ce à quoi le titre fait référence devait nécessairement être en anglais, je crois. Enfin, à mon sens, voilà.
Bon. Est-ce qu'il y a une proximité plus forte, des échanges plus faciles à la campagne ?
C'est pas évident pour elle. C'est-à-dire que quand cette adolescente débarque là sans connaître personne, elle a vraiment tout un univers, tout un monde à reconstruire. Le point de départ de ce livre, c'est vraiment l'histoire d'un déracinement. Et le déracinement, je pense que c'est jamais facile, qu'on soit enfant, adulte.
Oui.
Mais à l'adolescence, c'est encore vécu avec encore plus d'intensité parce que à ce moment-là, on se dit que les quelques amis qu'on a, ce sont des amis pour la vie et que on n'imagine pas une seule seconde pouvoir complètement réinventer sa vie ailleurs, et c'est à ça qu'elle se confronte. Donc elle est à la fois très en recherche de contact et en même temps c'est difficile pour différentes raisons, dont celle-là.
Et en même temps elle souffre d'une maladie, la maladie des ondes. Alors ça ne facilite pas sa vie à la pauvre Juliette, l'électro-hypersensibilité. C'est une maladie qui n'est pas toujours prise au sérieux, Mathilde.
Non, en effet, et c'est d'ailleurs ce qui lui arrive à elle, c'est-à-dire qu'elle est en souffrance par rapport à ça, mais c'est une maladie sur laquelle il n'existe pas de consensus médical et scientifique, et donc il y a ce truc d'y croire ou de ne pas y croire. Et évidemment, c'est un peu étrange, et puis il y a aussi le fait que c'est une maladie qui est invisible, donc quelque part, elle souffre.
Intérieurement, oui.
Exactement, oui. Et elle préférerait que ça ne se sache pas, parce que le fait d'être malade, ça peut être un motif d'exclusion.
Mmh.
Et de nouveau, quand on est adolescent, on n'a pas envie de ça. Et donc, elle préférait que ça ne se sache pas.
Pourquoi vous avez choisi ce sujet-là, d'ailleurs ?
Ouais, mais un peu par hasard. Enfin, je suis tombée sur un sujet dans un journal télévisé là-dessus, et j'ai trouvé ça intéressant, ce à quoi les personnes qui souffrent de ça sont confrontées.
Ah, vous l'avez pas vécu vous-même ? Je croyais que vous l'aviez vécu en fait, non ?
Non, je l'ai pas vécu moi-même. Mais par contre, j'ai vu que ces personnes étaient confrontées au fait de devoir s'éloigner toujours plus des centres urbains. Il y a des gens qui réellement vont s'installer dans des grottes, dans des forêts, etc.
Oui, c'est vrai. Mmh.
Et je trouve que ça crée vraiment un décalage avec la vie moderne, la vie contemporaine. Et ce sont des gens qui ne font pas ça par choix.
Et ces villages qui, à leur tour, eux aussi, veulent avoir des antennes relais pour pouvoir capter un peu mieux, pour pouvoir surfer sur Internet. Et ça, on le voit aussi dans votre livre. Parce que quand le village veut s'équiper, voilà, c'est le paradoxe. Et ceux qui se sont réfugiés dans ces villages-là, eh bien, ils sont confrontés à nouveau au même problème, en fait. On n'en finit jamais. Bon, on va aller voir du côté de nos libraires, Mathilde Allais, avec le Canada et la Belgique, deux libraires qui ont lu votre roman. On commence par qui ?
Écoutez, je vais être un petit peu chauvine et je vais commencer par la Belgique et Déborah Damblon.
Allons-y,
que
Déborah.
Je salue.
Vous connaissez, alors ?
Oui, pour la petite anecdote, ma toute première rencontre en librairie de mon tout premier livre s'est passé à la librairie La Licorne et j'étais accueillie magnifiquement par Déborah Damblon.
D'accord. Bon, on va voir si elle a aimé ce roman-là. Allons-y, Déborah, c'est à vous.
Allons-y.
Eh bien, justement, Emmanuel, est-ce que c'est à cause du titre ? Mais moi, j'ai trouvé, Mathilde, que votre Sexy Summer avait un côté ample comme certains romans américains. Vous voyez, ces romans pour adultes qui mettent en scène le moment presque précis où l'ado se transforme à tout jamais. Et ce sont des romans, je trouve, qui arrivent à nous captiver en ne racontant pas beaucoup plus que le quotidien, mais avec beaucoup d'acuité, et ça donne envie de nous y plonger, de nous y retrouver, et vous êtes arrivé à faire ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai aimé, que cette ampleur donne un relief si fort à notre petite Belgique qu'on trouve parfois un peu trop lisse ou un peu trop plate.
Bon, on va voir ça tout à l'heure d'ailleurs, hein, l'image de la Belgique dans ce livre. Le Canada, Josiane Letourneau, êtes-vous d'accord avec votre collègue ?
Ben oui, c'est sûr. En fait, de mon côté, j'ai été particulièrement séduite par la richesse de vos personnages, Mathilde Allais. Dans le paysage rural du roman, ils sont comme de petits bijoux dont les façades se révèlent page après page. Et c'est surtout vrai dans le cas de votre héroïne, cette jeune fille marginale, un peu décalée. Je trouve que son regard vif et sensible est réellement, pour moi, le cœur battant de ce livre. Il révèle toute la profondeur de cette histoire, les complexités de la galerie de personnages, et c'est une profondeur qui trouve son écho dans votre écriture.
Voilà, Mathilde Allais, les commentaires des libraires, ça vous va, je suppose.
Oui, merci beaucoup à toutes les deux.
Il y a des petites choses comme ça dans ce roman, Mathilde, avec le camion frites. Même à la campagne, il y a un camion frites. C'est un peu le lieu des retrouvailles de la jeunesse, et dans le camion frites, on y chante cette chanson. L'autre Finistère, des innocents, les innocents qui avaient joué sur notre plateau en Belgique, justement, à la Foire du Livre de Bruxelles, à une époque où l'on pouvait faire des émissions en public. Cette chanson, c'est un voyage immobile, c'est l'ouverture d'un horizon pour cette jeunesse enclavée à la campagne, Mathilde Allais.
Oui, et en même temps, la référence à cette chanson, c'est surtout une référence à ma propre adolescence, parce que j'écoutais cette chanson, je l'aimais beaucoup, et en même temps, je me rendais pas trop compte de la richesse de ses paroles. Et en fait, l'adolescente qui entend cette chanson la fredonne du bout des lèvres en faisant des petites erreurs comme ça, et en ne se rendant pas compte non plus de ce qu'elle est en train de chanter.
Alors, on ne peut pas tout raconter, mais dans ce village, il y a des hommes pas très fréquentables. Un voisin mystérieux, méchant par chagrin, un jeune qui abuse de sa force et de son côté sexy, va-t-on dire. Je m'arrête là. Mais vous décrivez, effectivement, on en parlait avec Déborah tout à l'heure, une Belgique à l'image assez négative quand même, non ?
Ah, j'espère que non. C'est-à-dire que je pense que c'est une question du point de vue qui est adopté, puisque j'ai choisi de me placer au plus près de Juliette, donc de cette adolescente. C'est pas écrit en jeu, mais par contre, je me mets vraiment à hauteur de son regard. Et donc, elle porte un regard sur cet environnement qu'elle n'a pas souhaité, qui peut être très désabusé, très critique, mais ça ne veut pas dire que ce qu'elle voit en réalité est si laid, etc. Et moi, j'espère que le lecteur peut regarder au-dessus de son épaule et voir peut-être des choses qu'elle ne parvient pas encore à voir.
Oui, dépasser les stéréotypes, c'est un peu ça, les faiblesses du pays. Comment peut-on faire pour dépasser ces stéréotypes aujourd'hui, en Belgique ?
Sur la Belgique, vous voulez dire ?
Oui.
Y venir, si toutefois on peut à un moment donné se déplacer davantage, oui. Mais non, moi je crois que ces campagnes belges sont très belles et ont une espèce de beauté particulière qui est peut-être pas la beauté de la carte postale, ce sont pas forcément les régions les plus tape à l'œil d'Europe, mais elles déclenchent un imaginaire, je trouve, en tout cas chez moi très fortement, vraiment elles me donnent envie de gratter, de savoir ce qui s'y passe, et voilà, ce sont des paysages propices à la rêverie, je trouve.
Oui, c'est vrai, il y a des endroits magnifiques, hein, il faut le souligner, dans la campagne belge, avec la nature comme ça, qui est flamboyante dans certains villages. Merci beaucoup Mathilde Allais, merci d'être venue dans la librairie francophone. À distance, hein, malheureusement, voilà, tout est compliqué en ce moment. En tout cas, on peut acheter votre livre en librairie Sexy Summer qui est paru aux éditions Flammarion. À bientôt, Mathilde. Merci encore.
À bientôt.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
La chronique des libraires, avec les coups de gueule et les coups de cœur, suite à un coup de cœur au Canada, Josiane Letourneau.
Oui, en fait, dans les prochaines secondes, Emmanuel, croyez-le ou non, je vais vous donner envie de lire un roman graphique sur la dépression. Alors, c'est comme ça que je disparais. C'est comme ça que je disparais de Myrion Mal aux éditions Pawpaw. C'est l'exemple parfait de l'œuvre qui aborde de front un sujet sensible, oui, mais d'une façon nuancée et courageuse. Avec l'histoire de Clara, en fait, l'héroïne, l'autrice, elle déploie avec une justesse qui frôle l'autopsie toute la mesquinerie sociale qui fait que l'ampleur de la maladie prend parfois beaucoup trop de temps à se révéler. Après l'avoir terminé, je suis restée au moins 30 minutes silencieuse. Bon, ça m'arrive pas souvent, tellement c'est un livre fort, que dis-je, une œuvre graphique extraordinaire, réussie en tout point.
On a bien besoin de ça en ce moment, tiens, la dépression. Vous plaisantez, hein? En fait, le livre commence quand même par la phrase « La première fois où j'ai eu le goût de mourir, j'avais genre 12 ans ». Et vous voulez qu'on lise ce livre-là?
Oui, parce que parfois, il y a des livres qui sont traités de telle manière que ça nous libère.
D'accord. En fait. Bon, c'est comme ça que je disparais aux éditions Pawpaw, qui est une très bonne maison d'édition au Québec. Merci beaucoup, Josiane. La France est un coup de gueule en Martinique. Anne-Rosine Vosa.
Ben oui, parce que je ne comprends toujours pas pourquoi les éditeurs ne nous expédient pas les livres avant pour que nous les mettions sur nos tables le jour de la sortie nationale. Nous les recevons toujours après et je constate que seules les grandes enseignes qui ont des centrales d'achat peuvent les recevoir avant les petites librairies indépendantes. Elles se gavent pendant que nous, on attend nos livres. C'est un problème qui ne se réglera que par une décision politique.
Il faut résoudre le problème. Avis à tous les éditeurs qui nous écoutent. Effectivement, pour les libraires indépendants, il faut faire un effort, notamment les libraires de l'outre-mer, pour ce qui concerne la France. Merci beaucoup, Anne. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. À très bientôt. On termine avec l'extrait d'une musique numéro un quelque part dans le monde, dans un pays membre de l'OIF. Voici le duo bulgare Tsvetelina Yaneva et Alexander Robov.
Друга ты спишь.
C'était Tsvetelina Yaneva, Alexander Robov, numéro 1 en ce moment en Bulgarie. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Cyril Pascal avec Dienab Sangaré. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Estelle Gap en France. Jean-Marie Félix et Madeleine Techer en Suisse. René Mikkels avec Valérie Lepute en Belgique. Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. Thierry Dupin était à la prog musicale. La semaine prochaine, je l'espère, dans un format normal, le plus normal possible. On fait tout pour. Avec Patrice Lecomte et Jean Tellet, entre autres. Bon week-end, bonne semaine à vous. Faites attention surtout, salut.